Alors, je m'appelle Mathieu Jubainville, j'ai 24 ans. Comme profession, je suis analyste en comptabilité pour Richardson, la compagnie agricole basée ici au Manitoba. Et les finances, ça m'intéresse pour plusieurs raisons. Évidemment, j'aime ça comprendre le système financier, alors pourquoi l'argent fonctionne, pourquoi une compagnie, ça vaut de l'argent. J'avais aucune idée comment répondre à ces questions-là quand j'ai commencé l'université, mais ça m'intéressait. Ça veut dire quoi une part d'une compagnie? Mais j'aime aussi l'idée des finances comme dans le sens que ça peut aider à planifier nos vies. Alors, on peut mieux comprendre des enjeux à petite échelle et à grande échelle. Alors, un exemple, ce serait, j'aimerais comprendre pourquoi un conflit économique entre la Chine et les États-Unis, ça m'impacte moi comme Manitobain. Mais si je ne comprends pas comment l'économie fonctionne en général ou comment les finances fonctionnent, je ne vais pas comprendre la base du conflit ni ses impacts. Alors, c'est pourquoi ça m'intéresse.
OK, tu as cette curiosité, mais de là en faire un métier, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'en faire un métier?
Alors, moi, quand j'ai commencé l'université, je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Je savais que je voulais aller peut-être en affaires, peut-être en droit, mais je me suis dit, ben, pour aller en droit, il faut que j'aille un bac avant d'y aller quand même, ou au moins avoir des années d'études. Alors, je me suis dit, ben, je vais faire un bac en commerce, et on va voir où ça va aller. Et j'ai commencé à remarquer que j'aimais beaucoup plus mes classes de finance, de comptabilité, d'économie. Puis j'ai dit, ah, ben, je vais essayer de faire des co-ops là-dedans. Alors, je me suis fait embaucher quelques fois par Richardson pour revenir été par été. J'ai remarqué que j'aimais beaucoup ça et que j'étais bon là-dedans. Alors, quand ils m'ont offert un emploi à temps plein un an avant que je finisse mon bac, ben, j'ai dit, certainement, je vais le prendre. Puis on va voir où la carrière m'apporte.
OK, je m'appelle Raymond Clément, j'ai 72 ans, bientôt 73. Je viens d'un petit village qui s'appelle Oubigny. J'ai quitté Oubigny à l'âge de 13 ans pour me rendre à l'école de Saint-Pierre. Par la suite, le collège Saint-Boniface, ensuite le collège Auburn. Puis là, j'ai rejoint Hydro-Manitoba en 1968 et j'ai pris ma retraite 45 ans plus tard, en 2013, j'ai commencé comme dessinateur industriel, mais j'ai abouti comme économiste en 1986 à la suite du rapport Trischler qui recommandait à Hydro-Manitoba de fonder un département d'économie pour faire de l'analyse. Je vais peut-être revenir là-dessus parce que ce département-là a été coupé avec les coupures en 2000. 18, 19, je suis un peu déçu de ça, puis je vais revenir là-dessus aussi. Alors, puis ensuite, j'ai enseigné des cours d'économie au Collège Saint-Boniface en micro par macroéconomie, deuxième année. En 72, j'ai rejoint les Intrépides, alors j'ai chanté un an, mais puis j'étais trop occupé à poursuivre mes cours en économie, j'ai laissé tomber. Puis j'ai commencé à prendre des cours en art. Puis ensuite, je suis allé en sciences. Puis ensuite, je suis allé en commerce. Puis là, j'ai fini avec une maîtrise en économie. Puis ça m'arrangeait bien parce qu'en 86, j'ai rejoint ce département d'économie. Et l'économie m'intéresse pour moi parce que c'est basé sur les données. Alors, ça, c'est la première chose que je fais. Je commence avec mes données. Puis là, je développe des tableaux, des graphiques, des tendances, des proportions, pour savoir qu'est-ce que les données disent. Je suis pas tellement théorique ni politique, économique, comme on dit, mais plutôt données puis faire des tableaux. Bon, je suis intéressé dans la démographie. Si vous me suivez dans la liberté, je parle souvent de ça. Je suis intéressé à l'énergie, entre autres Hydro-Manitoba. Je suis intéressé à l'énergie aussi mondiale. Puis là, j'ai abordé un sujet, le climat. Alors, il y a deux, trois rapports qui sont sortis cette année. Le rapport du GIEC, le 9 août, sur le rapport 6 sur le réchauffement climatique. Ensuite, l'Agence internationale d'énergie a sorti un rapport au mois de mai sur la cible net zéro en 2050. Alors, ça, c'est les choses qui m'intéressent, puis c'est les choses que j'essaie de comprendre. Tu disais tantôt qu'on a de la misère à comprendre la finance. Il y a beaucoup d'économistes, inclus moi-même, beaucoup de difficultés à comprendre la monnaie, les échanges commerciaux, les échanges de capital. Alors, on peut parler de ça. Puis, tant qu'à moi, la théorie macroéconomique qu'on nomme maintenant, que les banques centrales du monde fonctionnent avec, sont désuètes, sont pas bonnes. Juste pour revenir à la politique, M. Pallister, son but, c'était le budget équilibré, baisser les taxes. Mais derrière ça, c'est la théorie ricardienne. C'est-à-dire que s'il y a un déficit d'un dollar, les consommateurs vont épargner un dollar pour payer cette taxe-là. Cette théorie-là est désuète. Elle a été prouvée fausse. Alors, puis il y a d'autres choses, il y a d'autres théories, comme la théorie de Phillips Curve qui relate la courbe entre l'inflation puis le chômage. Celle-là est plus bonne parce que là, on est très bas puis on a beaucoup de misère. Alors, la théorie, la politique monétaire de la Banque du Canada et toutes les banques du monde ont des problèmes. On est probable d'atteindre le 2% qu'on s'est donné comme cible. Sauf cette année, l'inflation va être haute pour d'autres raisons à cause de COVID. Alors, je pourrais continuer, mais on va revenir puis on peut en discuter davantage.
On peut sentir la passion, Raymond. Oui. Est-ce que tu vois les choses de la même façon, Mathieu, toi qui commences dans le métier là, puis qui observe ça aussi?
Alors, moi, j'ai pris seulement les cours de base et d'introduction d'économie. Alors, moi, c'est plutôt le monde des finances en affaires dans lequel je suis plus familier, mais certaines données que Raymond a discutées m'intéressent beaucoup aussi. L'idée de, tax policy, les lois qu'on met autour des taxes, soit fédérales, provinciales, c'est très important au niveau de idéologie politique, mais aussi de résultats et d'agrandissement et d'amélioration du pays. Alors, si on veut, il y a toujours deux opinions. C'est est-ce que je devrais monter les taxes ou les baisser? Et ça crée un conflit essentiellement éternel. Par contre, je suis d'accord avec Raymond que c'est presque un conflit créé qui n'est pas vraiment 50-50, ça ne devrait pas l'être. Parce qu'on peut discuter du fait que l'investissement gouvernemental et ainsi de suite rapporte plus de bien-être et de résultats que sincèrement juste réduire les taxes. Alors, je suis d'accord avec ça.
Alors là, vous avez mentionné beaucoup d'éléments. Moi, je suis déjà un petit peu perdue. Pourquoi nous autres, là, qui n'avaient pas le nez dans les chiffres comme vous le faites, on s'intéresserait à tout ça? Pourquoi c'est important pour nous autres, là, le commun des mortels?
Ben, je peux m'aventurer. C'est parce que les politiques monétaires et politiques fiscales viennent nous toucher, chacun d'entre nous, au quotidien. Que vous payez la TPS de 7 ou 8%, ça vient vous toucher. L'autre chose importante dans tout ça, c'est qu'il faut toujours questionner les politiques de n'importe quel gouvernement. Pourquoi ils ont pris cette décision-là? Pourquoi que M. Pallister décide d'équilibrer le budget, c'est son objectif principal? Pourquoi que couper la taxe sur les propriétés au printemps? On est en crise et on sait qu'on a besoin des fonds pour l'éducation, la santé. Pourquoi faire ça? Alors, on peut le critiquer. On peut lui poser cette question-là. On a cette fausse idée qu'il faut gérer un gouvernement comme un budget de famille. Jamais. Faut pas faire ça. Parce que un gouvernement a une longue durée, puis il a l'intérêt de tout le monde. Moi, cependant, puis ma famille, moi, j'ai juste une période définie de ma capacité de gagner. Alors, faut que je surveille mon budget, faut que j'épargne, puis faut que je surveille ça. Mais un gouvernement, il faut qu'il fasse des bons investissements, mais équilibrer le budget en crise, c'est pas la chose à recommander. D'ailleurs, il y a une nouvelle théorie qui s'appelle Modern Monetary Theory qui dit que la chose, c'est que le gouvernement qui a sa monnaie peut créer autant d'argent que possible qu'il veut pour faire ses programmes. Alors, la grosse chicane aux États-Unis, là, c'est ça, là. On nous fait peur qu'on va avoir de l'inflation. On nous fait peur qu'on va avoir des dettes énormes. Non, je pense que Monetary Theory a un bon point à soulever. Puis le meilleur exemple, c'est le New Deal de FDR. FDR, après 10 ans de dépression, puis 5 ans, 10 ans de dépression, puis sécheresse, a décidé de relancer l'économie. On crée de l'argent, on crée des programmes, on crée la Banque centrale, on a bâti Hoover Dam, Et ça a marché. Ça a donné de l'emploi. Puis, il n'y a pas eu une grosse crise. Les États-Unis sont sortis de cette période à la Deuxième Guerre, étant en tête du monde. Ils ont financé avec le Marshall Plan l'Europe, à rebâtir l'Europe. Alors, C'est un bon exemple. J'aimerais avoir des études là-dessus plus, mais j'en vois pas, alors je vais attendre.
Mais là, tu parles de risques. Tu parles de politiciens qui prennent des risques pour faire avancer leur pays. Il n'y a pas beaucoup de politiciens qui osent prendre des risques au-delà des 4 ans jusqu'aux prochaines élections. Là.
C'est ça le dilemme.
Et si je peux monter là-dessus sur le 4 ans, c'est que d'habitude, quand les taux d'intérêt sont très bas, comme ils le sont en ce moment et comme ils le sont depuis un bout de temps, ce n'est pas une mauvaise chose pour un gouvernement d'emprunter plus d'argent et de créer un déficit, parce que l'investissement qu'un gouvernement peut faire va rapporter un plus grand revenu et un plus grand retour que ce que nous autres, on pourrait faire comme individu, à un profit aussi. Parce que, par exemple, le gouvernement peut emprunter à des taux d'intérêt extrêmement bas, 1%, même pas. Alors, le 4 ans, c'est que le problème, c'est que ça prend longtemps avant que des gros investissements rapportent du profit et rapportent la profitabilité du bien-être aux Canadiens. Alors, pourquoi est-ce qu'un politicien qui va probablement juste voir un horizon de 4 ans à chaque fois, pourquoi est-ce qu'il voudrait investir dans quelque chose qu'il ne va probablement jamais voir quand lui est en charge? C'est le problème. Alors, on doit essayer de trouver une façon d'encourager les politiciens à peut-être arrêter de penser à eux-mêmes et vraiment penser aux autres, même si ça, c'est leur emploi. C'est un peu bizarre, mais peut-être qu'ils devraient respecter pourquoi on les a élus.
Oui. Alors, pourquoi qu'ils ne vous écoutent pas tous les deux, là, Raymond et Mathieu? Ce serait le fun parce qu'on est d'accord avec vous autres pas mal.
Ah, ils ne sont pas intéressés à nos propos. Ils ont leurs idées, ils ont leur monde, puis leurs idées fonctionnent. Puis la plupart du temps, c'est beaucoup de monde qui se présente, qui ont un point ou deux, puis c'est leur objectif, sans connaître tout l'ensemble des programmes ou des problèmes. C'est un gros défi. Juste gérer la crise écologique, énergétique, ça va être un énorme problème. Le GIEC a revu, il y a 400 000 papiers, études qui se font par année sur le climat. Ils ont regardé 14 000, puis ils ont fait un rapport de 3 985. Un rapport de synthèse de toutes ces études-là. Même à ça, il va y avoir des sceptiques, des climato-sceptiques. Ce serait intéressant de les entendre parler, ces gens-là. Mais... Alors, on a une vision, puis on pense que notre vision est la meilleure. Si je serais le boss du monde, je ferais ci, je ferais ça, mais c'est impossible.
Mais pour ajouter sur le fait que Raymond disait que lui commence toujours avec les données et ensuite il se crée des tableaux qui vont ensuite formuler ses opinions, le problème, c'est que pas tout le monde est comme Raymond. Beaucoup de gens qui veulent aller en politique vont commencer de l'autre bord. J'ai une idée théorique ou une opinion de philosophie et je vais ensuite travailler de reculons pour trouver quelqu'un qui va me donner des données qui disent que j'ai raison. Puis ensuite, je vais juste utiliser cette information-là pour avoir ce que je veux du début. Alors, c'est comme ils appellent ça comme un echo chamber, ou c'est quand tu crées une dissertation pour l'école, puis tu fais juste des recherches Google sur l'opinion que tu veux déjà argumenter. C'est la même chose que les politiciens font. Ils ont déjà leur opinion, déjà une idéologie politique qu'ils veulent garder, puis ils vont embaucher les gens qui vont leur dire exactement ce qu'ils veulent. Alors, c'est très difficile de commencer du bas, comme Raymond fait, pour ensuite monter à se formuler une opinion.
Là, Mathieu, tu viens à un point qui est important pour moi parce que dans les médias, on le dit souvent, on fait souvent ce commentaire-là. Ça veut dire qu'on peut faire dire aux chiffres qu'est-ce qu'on veut.
Absolument.
Vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Oui. Pour revenir là-dessus, pour rebondir là-dessus, François Gervais, physicien de l'Université de Tours, est un climato-sceptique. Il est rentré dans le sujet assez tard dans sa profession, après qu'il a pris sa retraite. Puis quand il analyse le climat, il regarde seulement les périodes qui lui intéressent. Il coupe les périodes avant ou les périodes après. Alors, c'est le jeu. Hein. Et on fait tout ça.
Alors, qui croire?
Faire sa propre recherche, se renseigner. C'est beaucoup de travail. Se renseigner, s'éduquer, lire. Puis l'Internet, c'est formidable. Il y a beaucoup de matériel qui, comme ci, comme ça, mais il y en a, si tu trouves les bons sites, alors ça te rejoint à d'autres sites, puis à d'autres auteurs, puis là, tu commences à faire une idée. Moi, l'autre chose avec le climato-sceptique, il y en a qui disaient, c'est les paramètres de Malenkovitch. qui dit que le climat de la Terre, c'est géré par les planètes, les astres. L'homme n'a pas de rôle à jouer. Mais ça aussi, c'est faux. Oui, le climat joue sur les grandes périodes, mais là, depuis quelques années, là, l'homme joue un rôle important sur le climat en brûlant des fossiles.
Raymond, tu t'intéresses au climat, à l'environnement maintenant, mais quand tu avais l'âge de Mathieu, c'était pas un sujet dont on parlait du tout. Et pourtant, il y avait déjà des gens qui disaient « Attention, on est en danger ».
Oui. Il est sorti le rapport de Rome. C'est le rapport de Rome en 68, je crois. Puis le Population Bomb en 72, qui parlait de ça déjà. Mais dans mon temps, quand j'étudiais, c'était le modèle keynésien, le modèle monétariste, puis l'inflation qui est montée en 1980. C'était ça la grosse question. Comment contrôler cette inflation-là? Aujourd'hui, l'inflation est moins sujet, sauf peut-être ça revient là, avec les dépenses du gouvernement. Mais... Alors, oui. Puis ici, ça, c'est un problème urgent. Puis là, on a l'information, puis on accumule l'information. Puis il faut l'étudier. Puis malheureusement, les Canadiens, on n'a pas des bons chiffres sur le climat à cause de notre comportement. Puis on devra agir. Sinon, on va être pointé du doigt. Parce qu'on est les plus gros consommateurs par capita de PIB après les Américains, mais on est le plus gros consommateur de CO2. On cause de CO2 par capita le plus élevé au monde. Alors, il va falloir agir ou bien le feu puis la sécheresse est à nos portes.